Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants relais santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti!
Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Bien-être étudiant On Air, les feux de l'amour et de l'amitié. Je m'appelle Caroline, je suis étudiante en orthophonie et étudiante relais santé-bien-être à l'espace santé étudiant. Aujourd'hui, je suis accompagnée pour ce podcast pour la toute première fois de ma collègue Camille. Coucou Camille.
Coucou Caro, je suis ravie d'être là pour mon premier podcast. Je me présente, je suis étudiante en L1 d'histoire, j'ai déjà fait une licence en sciences politiques et je suis également étudiante relais santé-bien-être à l'espace santé étudiant.
Alors Camille, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi on va parler ?
Pour ce nouvel épisode, nous allons décrypter toutes les relations qui forment notre vie étudiante, parce que être étudiant, c'est bien sûr construire son projet professionnel, mais c'est surtout une période de notre vie où on se construit soi-même et ça passe surtout par la rencontre de nouvelles personnes.
C'est vrai, et en plus, souvent, à l'arrivée à la fac, c'est un moment où on tisse des relations fortes et marquantes. Du coup, forcément, dans un tel contexte, c'est un peu la pression.
Bah oui, surtout que l'université, c'est un grand moment de changement et ça rime aussi avec une certaine forme de rupture dans nos anciennes relations. On ne voit plus forcément les mêmes personnes aussi régulièrement et il est parfois difficile de maintenir des relations à distance avec des emplois du temps pas forcément concordants.
Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la place des relations amicales et amoureuses dans la vie étudiante. Pour parler de ce thème, nous sommes accompagnés par le docteur Marion Lenoir, psychiatre au centre hospitalier de Charles Perrins. Bonjour Marion, merci de nous rejoindre pour cet épisode.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
Pour commencer, de ton point de vue de professionnel, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de dire ? En quoi l'entrée à l'université, ça peut être un moment fondateur pour notre identité et nos relations ?
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est avant tout une période de grand changement. Pour la plupart des étudiants, c'est un déménagement, la prise d'autonomie, la rencontre avec une certaine solitude dans son logement étudiant, mais aussi la possibilité de faire plein de rencontres, des fois un peu trop, et puis des fois, c'est pas si facile de faire des rencontres et on a du mal.
Et on reçoit également aujourd'hui une invitée très spéciale. Nous accueillons Yoline Badet, créatrice de contenu bordelaise sur Instagram. Bonjour Yoline, bienvenue et merci pour ta participation à ce podcast.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée.
Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler des sujets que tu aimes aborder sur ton compte Instagram ?
Alors sur mon compte Instagram et aussi sur TikTok, j'aborde des sujets comme les relations amoureuses, le dating, comment prendre confiance en soi, comment gérer un peu la relation avec ses amis. J'essaye de donner des conseils en tant que peut-être grande sœur que moi j'aurais aimé avoir en étant plus jeune. Et si ça peut aiguiller certains jeunes via ce que je peux leur raconter, ça me fait très plaisir.
Pour commencer, Marion, est-ce que tu penses que l'arrivée à l'université, c'est vraiment un moment vraiment stressant ou est-ce qu'on a trop d'appréhension ? Je sais que moi, pour mes études, j'ai dû changer de ville, je suis d'origine de Paris. Et c'est vrai que l'entrée dans les études, c'était à la fois une nouveauté au niveau de mes études, mais c'était aussi la première fois où j'habitais seule. Donc il y avait plein d'enjeux et j'avais forcément un peu d'appréhension.
Oui, tout à fait. Alors, les appréhensions, le stress, ça peut être quelque chose d'extrêmement porteur qui va nous pousser à nous dépasser. Et ça peut être des fois plus difficile. Rentrer dans un amphi où il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, s'asseoir dans un groupe de TD et choisir son binôme pour le reste de l'année, oser s'adresser à l'autre. Effectivement, c'est à la fois plein de nouveaux liens à créer, mais aussi des liens qui peuvent être source d'anxiété.
Yoline, toi, comment tu t'es créé en fait ton cercle d'amis à l'université ? Est-ce que c'était quelque chose de facile ou est-ce que tu l'as vécu de façon plutôt complexe ?
Alors, moi, j'ai eu la chance de faire mes études dans un DUT, donc c'est dans un espace un peu plus réduit que la fac, parce que je pense que la fac, c'est encore plus complexe d'arriver. Il n'y a pas forcément de groupe, pas forcément de classe, donc c'est encore plus compliqué de faire des rencontres. Donc, moi, dans le DUT Tech de Co que j'ai fait à Bordeaux, j'avais la chance d'avoir une classe. Mais c'est vrai que c'était assez stressant parce que je pense que tout se joue très rapidement, les groupes se forment très rapidement et après c'est compliqué de ensuite s'intégrer dans un groupe si on a un peu raté le coche, qu'on n'était pas forcément présent aux premiers événements, etc. Donc je pense que c'est surtout pendant les débuts, vraiment les balbutiements, le début de l'intégration qu'il faut être présent, qu'il faut participer, vouloir s'intégrer pour justement pas forcément ressentir cette distance plus tard.
Personnellement, je comprends très bien. Et ce qui m'a beaucoup aidée en fait à m'intégrer dans des dans des gros amphis, dans des endroits où forcément on se sent pas très individuel en fait, on ressent pas trop la présence de l'individu et c'est difficile de s'affirmer dans son identité et de s'affirmer par rapport aux autres. On a toujours peur aussi de comment ils nous perçoivent. Est-ce que je suis en train de montrer la meilleure version de moi-même ou est-ce que je suis qu'une fade copie de ce que j'aimerais en fait montrer aux autres. Ce qui m'a beaucoup aidée personnellement, c'est les journées en fait d'intégration, c'est les associations universitaires, c'est les bureaux des élèves, les soirées aussi d'intégration qui permettent une véritable intégration à un groupe.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai quand même l'impression, peut-être que je me trompe, mais que les études, c'est rentré dans le monde des adultes, des jeunes adultes, mais des adultes, et où la pression du groupe peut quand même être un peu plus bienveillante que ce qu'on a pu rencontrer dans les autres années du lycée ou du collège, où les questions du harcèlement sont quand même très présentes. La question de la réputation, de l'image qu'on renvoie, sont des questions qui sont quand même aussi au centre de la construction adolescente et dont on voit beaucoup d'étudiants quand même dans le fait aussi de déménager, de commencer une autre vie avec des gens avec qui ils vont avoir des points en commun. On peut les voir se détacher de tout ça et faire une rencontre d'un groupe qui va pouvoir être plus bienveillant et plus soutenant que ce qu'ils avaient pu connaître auparavant. Et ça, c'est quand même très souvent rapporté par les étudiants qui arrivent à s'insérer dans un groupe de pairs. Il y a aussi des limites, c'est-à-dire que tu parlais de la question de l'intégration, et c'est vraiment super, il y a vraiment la question du consentement et de ma limite. Je ne suis pas obligée d'accepter de participer à des activités de bizutage pour pouvoir m'intégrer. Je ne suis pas obligée de consommer des substances pour faire comme les autres, pour m'intégrer si je n'en ai pas envie. Et c'est un des trucs qui est vraiment très important, je trouve, à cette période où tout est possible, mais aussi du coup des fois des choses qui pourraient vous mettre à mal.
Justement, je voulais rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, par exemple, ont vécu du harcèlement au lycée ou au collège, qui n'étaient pas forcément bien dans leur peau, qui n'avaient pas forcément d'amis ou de groupe, etc. Et qui voient en l'entrée dans les études une opportunité de se reconstruire, de redevenir quelqu'un d'autre, d'être justement intégré, d'avoir des amis, etc. Et je voulais juste dire que par rapport à ces jeunes-là, il faut prendre conscience qu'on ne doit pas non plus forcer l'intégration et vouloir complètement se changer et pour absolument être intégré à tout prix parce que justement ce forcing, ce côté à vouloir absolument avoir des amis, participer à tous les événements, être ultra présent, etc., ça va se sentir aussi. Et il ne faut pas oublier que voilà, cette période-là peut-être de souffrance qui était dans des périodes antérieures au lycée, au collège, etc., c'est de côté. Maintenant on est une nouvelle personne, certes ce sont des nouvelles opportunités, mais il ne faut pas non plus se mettre la pression d'absolument appartenir à un groupe, etc., pour justement se dire ok, je veux devenir quelqu'un d'autre, quoi. Donc pas de pression par rapport à ça, être le plus naturel possible et se dire ok, ça s'est passé avant mais maintenant ce sera différent et il y a pas de raison que ça recommence, quoi.
C'est vrai que je trouve que l'enjeu c'est de réussir à se construire son identité et trouver les choses dont on a envie en termes de relations sociales et connaître ses limites. Mais à la fois, je trouve qu'il faut aussi se laisser changer par les autres, parce que les relations sociales peuvent être enrichissantes et c'est par les autres qu'on se construit. Donc il faut un peu réussir à gérer les deux et c'est pas forcément
et
facile.
Oui, un savant équilibre avec la question d'oser se mettre un tout petit peu en danger. L'exemple serait « Ah, j'ai très envie d'aller à cette soirée, mais je connais personne, je saurais parler à personne. » Donc non, mais en fait, j'aime pas les soirées, je préfère rester chez moi. Non, mais ça va pas du tout me manquer. Oh, mais finalement, elle avait l'air géniale cette soirée. Et donc il y a la question de, par moment, on a des comportements aussi d'évitement, des choses qui peuvent nous stresser, qui sont nouvelles, qu'on ne connaît pas, qui vont être source d'anxiété. Et donc à la fois se protéger, mais mettre aussi un petit peu repérer ses comportements d'évitement et essayer par moment de forcer un peu son évitement anxieux pour se confronter à une nouvelle situation.
Se dire, est-ce que finalement c'est la peur qui parle ou est-ce que c'est moi qui ai vraiment pas envie d'aller à cette soirée ?
À propos des soirées, n'hésitez pas d'ailleurs à écouter le podcast de l'équipe des ERS Soirées, Le sens de la fête, et ils abordent des sujets sur les soirées et sur leurs enjeux.
le témoignage d'Aurélia peut être assez pertinent. Donc ça, en fait, c'est un témoignage écrit d'une L3 en médias, culture et communication à l'Université catholique de Lille, qui nous dit qu'à l'université, tu peux être prêt à tout pour te faire des amis, adopter leurs valeurs, leur état d'esprit, changer. Tout dépend du groupe dans lequel tu t'intègres au début. La majorité peut faire pression pour décider d'aller en cours ou non. Personnellement, je dirais que quoi qu'il arrive, personne ne devrait un jour changer vos valeurs, ce en quoi vous croyez et qui vous êtes.
Moi, je suis assez d'accord. J'ai fait la fin de mes études, j'étais en école de commerce, donc je pense que c'est encore plus présent dans ce genre d'environnement, le fait d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une asso, de vraiment être intégré dans l'écosystème, plus qu'à la fac, je pense. Après, dans mon cas personnel, j'ai rarement appartenu à un groupe. J'ai préféré toujours entretenir des relations individuelles avec des personnes, mais des relations beaucoup plus profonde. Je pense que c'est peut-être aussi d'une peur du groupe et de pas forcément être d'accord avec les pensées générales et de vouloir vraiment affirmer mon individualité. Donc je pense qu'il faut savoir trouver sa place. Je pense que dans un groupe, il y a toujours des personnes qu'on apprécie plus que d'autres, avec lesquelles on pourra toujours approfondir les liens. Je pense que le groupe, il faut le voir comme un tremplin pour justement faire des choses dans le collectif, participer à des soirées, etc. Mais qu'il ne faut pas se noyer dans le groupe et toujours garder des relations fortes et individuelles avec des gens pour sentir vraiment de la sincérité, parce que finalement, dans le groupe, bah, tout le monde noie un peu sa personnalité pour correspondre au groupe. Donc je pense qu'il faut un équilibre entre les deux.
À ce propos, Marion, est-ce que justement tu penses qu'il y a des besoins différents en fonction des personnes en termes de socialisation ? Est-ce qu'il y a des types de personnes qui vont avoir besoin d'être entourées pour se sentir bien ? Est-ce que c'est normal d'avoir envie d'être seule ? Est-ce que c'est aussi un besoin ?
Oui, tout à fait. C'est un besoin de pouvoir avoir des moments plus ou moins marqués en fonction de sa personnalité, d'isolement, voire de solitude. La solitude, ce n'est pas forcément quelque chose qui sera subi et douloureux. La vraie question, c'est qu'est-ce que je choisis ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Et c'est se connaître. Je sais que des moments, il faut que je coupe, il faut que je dorme, il faut que je me mette sous ma couette avec mes bandes dessinées. Et puis, à d'autres moments, il faudra que j'y aille. Enfin, ouais, c'est vraiment la question d'écouter aussi ses besoins, son sommeil, ses capacités de concentration, tout plein de choses qui nous font dire que là, on a peut-être un peu dépassé la limite. Et dans l'autre sens, se sentir trop seul, effectivement, et souffrir de solitude. L'idée, c'est de pouvoir effectivement oser demander de l'aide dans ces périodes-là.
Est-ce que toi, Yoline, il t'est arrivé de confronter tes besoins émotionnels à un ami ou à un partenaire romantique et te rendre compte que ça ne fonctionnait pas ? Et est-ce que tu as un conseil pour essayer de trouver cet équilibre en fait, entre tes besoins et les besoins de l'autre dans les relations ?
Déjà, il faut accepter que l'autre a une autre vision de la vie, a une autre perception, a d'autres expériences et une autre personnalité que la nôtre, et qu'on ne va pas réagir de la même façon aux mêmes choses. Donc je pense qu'il faut se dire que le plus important, c'est d'avoir un socle commun dans la relation. Ça va être sur vraiment des valeurs profondes, sur nos croyances, etc. Et après, sur certaines choses, bon, on peut ne pas être d'accord, mais est-ce que finalement c'est si dramatique ? Il faut aussi accepter que voilà, chacun a sa vision des choses. De toute façon, je pense que c'est quelque chose qu'on sent intrinsèquement. Si quelqu'un fait vraiment quelque chose qui va nous déranger au plus profond de nous et qu'on n'est pas du tout d'accord avec ses valeurs, c'est pas un problème pour moi de se dire bon, ben voilà, je m'entends pas forcément avec cette personne. Je pense que, enfin, il faut accepter aussi qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec nous. Mais après, à voir quelles relations de proximité on veut avoir avec ces personnes-là, et celles qu'on veut garder très proches et celles qu'on veut peut-être voir à l'occasion parce qu'elles nous font rire, elles nous intéressent, etc. Mais à qui on ne va pas forcément confier nos plus grandes peurs et nos plus grands secrets. Et d'autres personnes avec qui bah, peut-être on n'a pas les mêmes activités, mais avec qui on sait qu'on pourra se confier et avoir un lien plus sincère et plus intense avec ces personnes-là. Donc je pense que c'est juste apprendre à se confronter à la différence et savoir ben, ce qui nous convient le plus et pourquoi. Et ensuite adapter notre relation en fonction.
La question des besoins, c'est vraiment une bonne question dans une relation duelle. L'autre n'a pas don d'ubiguïté. Il ne peut pas deviner quels sont mes besoins dans cette relation. Et du coup, ça peut amener à des grands conflits, enfin, de la distance. Il ne répond pas à mes besoins, il ne me comprend pas. Mais on ne peut comprendre que ce que l'autre a formulé. avec des mots, le plus souvent, c'est quand même le plus simple. Et du coup, il y a vraiment une question qui est de pouvoir aussi formuler ses besoins à l'autre et pouvoir lui dire, dans les moments où l'autre aura une des attentes, écoute, j'entends tes attentes, mais là, par exemple, je ne suis pas assez bien, je ne peux pas répondre à ce besoin-là. L'autre ne vous en voudra jamais si c'est formulé. On peut tout à fait comprendre que là, on est pris dans autre chose, on n'a pas le temps, on n'a pas la disponibilité, on n'a pas la force. Il faut que ce soit puisse être dit et demandé assez clairement, finalement.
À ce propos, on avait discuté avec les autres ERS Bien-être et on avait parlé de l'existence des 5 langages de l'amour. Justement les différentes façons d'exprimer nos besoins et d'exprimer l'amour qu'on ressent pour quelqu'un. Et je trouve que voilà, ça correspond à ce que tu dis, qu'on n'a pas forcément tous les mêmes besoins et les mêmes envies, et c'est pas forcément facile de reconnaître ce que l'autre veut et ce qu'on veut, et on peut facilement se projeter et en vouloir à l'autre de pas nous témoigner l'amour ou l'amitié de la façon dont nous on s'y attend. Donc les 5 langages que nous on avait vus, donc c'était les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et dans une relation, ça peut être compliqué de s'aligner à quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes besoins que nous.
Oui, d'où l'idée de les formuler.
C'est ça.
Et Yoline, est-ce que tu reçois des messages des étudiants qui se confient à toi par rapport à justement les difficultés qu'ils peuvent ressentir dans leur relation, dans leur rupture ?
Oui, je reçois beaucoup de messages de filles et de garçons, hein, de vraiment... Même si on a tendance à se dire que c'est plus des filles qui vont m'envoyer des messages, il y a aussi beaucoup de garçons qui m'envoient des messages. C'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que voilà, on a forcément des attentes envers quelqu'un et puis finalement on est déçu parce que c'est pas forcément réciproque ou la personne ne va pas combler nos attentes, etc. Et moi, ce que j'essaye de leur dire, c'est que souvent, en fait, on a tendance à se projeter, à projeter très loin dans la relation et se dire que voilà, ça y est, tout est acquis, etc. Mais moi, j'essaie de leur dire de prendre les choses doucement, tranquillement, d'apprendre à se connaître, de pas trop se projeter non plus, de pas avoir trop d'attentes envers les autres. Et de pas projeter aussi ses propres peurs sur l'autre parce que finalement on n'est pas dans sa tête et on peut pas savoir ce qu'il pense, donc voilà, vraiment prendre les choses le plus simplement possible. C'est des choses que moi aussi j'essaye de m'appliquer, parce que voilà, aussi de prendre du temps pour soi, parce que souvent j'ai aussi l'impression que beaucoup de jeunes, par un souci de suivre ce qui se fait à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi dans la culture en général, on voit les relations amoureuses, on idéalise énormément le couple. Et j'ai l'impression que beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément vécu encore de relation de couple en rêvent, l'idéalisent, etc. Et se demandent en fait quand est-ce que ça va leur arriver. Et finalement, bah, dès qu'ils ont un crush, ils vont tout de suite se projeter, se dire ça y est, je vais être en couple, etc. Et en fait, moi j'ai tendance à leur dire, prenez le temps, apprenez déjà à vous aimer vous-même, à vous connaître vous-même et ensuite à vous projeter peut-être avec quelqu'un, mais je pense que le plus sainement possible c'est d'abord de s'aimer soi-même et c'est le premier travail à faire avant de se projeter avec quelqu'un d'autre, quoi.
C'est vrai que ça prend du temps d'accepter sa propre compagnie et de reconnaître qu'on peut avoir besoin de moments seuls. Je sais que voilà, j'apprécie beaucoup d'être entourée, de passer du temps avec du monde, mais plus récemment, je réalise que les moments aussi où je suis seule chez moi, c'est des moments qui sont vraiment très importants, où vraiment on a la sensation de recharger nos batteries sociales, clairement. Et c'est vraiment une nécessité pour se poser, pour réfléchir sur soi et sur les relations qu'on a eues avec les autres et prendre un peu du recul sur tout ce qu'on a vécu avec les autres. Et ça me paraît vraiment essentiel pour se sentir bien et pour avancer sur le chemin des relations sociales.
Personnellement, j'ai eu une période dans ma vie un peu de célibat choisi où je savais que je n'étais pas du tout disponible mentalement pour être avec quelqu'un. Ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. C'était vraiment une reprise de pouvoir, en fait, sur soi et vraiment aussi une introspection au quotidien. Et ça me permet maintenant d'être beaucoup plus claire aussi sur ce que je veux dans mes relations. Je voulais un peu revenir aussi sur les ruptures, qui n'est pas un moment très facile, en fait, des relations, et sur comment elles se passent. Globalement, pour moi, il y a plusieurs types d'éloignement. Il y a des ruptures qui sont très brutales et il y a des ruptures qui sont plus sur le long terme, en fait. Voir que petit à petit, on se détache de la personne. C'est pas que physique, c'est aussi l'idée que petit à petit, on n'est plus pareil.
Oui, la question des ruptures, que ce soit en amitié ou en amour, il y a quand même la question de la séparation. d'une certaine forme de deuil, et donc c'est quand même le plus souvent quelque chose qui va entraîner des émotions plutôt négatives autour de la tristesse, du repli. On est deux dans une rupture, hein, donc on va faire avec ce que l'autre va nous laisser faire. Mais on peut se séparer sans se détruire, sans se blesser. Et donc, dans cette rupture, quel est quelque chose de ma colère qui va vouloir faire que je vais vouloir tout détruire ? Mais ce n'est pas forcément utile. Donc, il y a aussi un truc, quelle que soit la façon dont l'autre se sépare de nous, on peut faire en sorte, on souffrira tout autant, on sera malheureux, mais on n'est pas obligé d'essayer de casser les choses et d'abîmer ou de mettre à mal, puisqu'il y a ce temps de la rupture et après vient ce temps très beau où on se souviendra aussi qu'on a vécu quelque chose avec cette personne et quelque chose qui, malgré la rupture, a pu être beau. En tout cas, on vous le souhaite.
Je trouve qu'au moment d'une rupture, on peut facilement avoir une sensation d'échec et se remettre soi-même en question en se disant « qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ?» Alors qu'une rupture, c'est pas forcément définitif. En amitié ou en amour, on peut retrouver les personnes plus tard ou pas. Mais il faut pas trop s'interroger non plus sur ça. Et personnellement, pour mes ruptures amicales, j'ai jamais eu de rupture vraiment brusque avec des éclats de voix ou des moments vraiment compliqués. C'était plutôt des éloignements naturels. Et c'est pas forcément facile de comprendre pourquoi. Et je trouve que ça nous renvoie beaucoup à nous-mêmes en se disant bah, qu'est-ce que moi je suis devenue ? Qu'est-ce que la personne est devenue ? Pourquoi on en est là ? Et ça permet aussi vraiment de se construire beaucoup. Et dans une rupture amoureuse, par exemple, s'il y a de la tromperie, pareil, je trouve qu'on se remet vraiment en question soi-même en se disant bah, « qu'est-ce que j'ai fait pour que la personne me trompe ?» Alors que c'est plutôt l'autre qui est en tort. Mais aussi, ça nous renvoie beaucoup à beaucoup de choses en nous. Et je trouve qu'on se pose beaucoup de questions sur soi dans des moments de rupture. Et c'est très formateur.
L'autre est quelqu'un qui change, qui grandit, qui devient adulte, qui se construit et qui va aussi avoir besoin de faire ses expériences. Et donc, c'est pas forcément une question de culpabilité, de faute ou de ne pas être à leur hauteur. Pas du tout. Vous avez évolué, l'autre évolue aussi. Et alors ces ruptures d'amitié, par exemple, est-ce que ça reste des bons souvenirs d'amitié, malgré tout, avec la distance ?
Oui, ça reste des bons souvenirs. Je trouve qu'avec le temps, on arrive à plus en plus ne penser qu'au bon moment et justement tirer un peu des conclusions et des leçons des moments moins bons. Et ça permet après, dans nos prochaines relations, de repenser à ces anciennes relations et d'avancer et de vivre les choses un peu différemment.
Oui, et est-ce que tu ressens encore beaucoup de sympathie pour cette personne ?
Oui, toujours, j'apprécie toujours suivre sur les réseaux sociaux ce que font les personnes avec qui j'étais amie avant et avec qui je ne suis plus amie, mais on ne cherche pas forcément à se recontacter, et chacun fait sa vie et on a fait partie de la vie de l'autre, et c'est ça aussi la vie, savoir mettre un terme aux relations et avancer chacun de son côté.
Mais elle existe encore pour toi ?
Oui.
Yoline, est-ce que tu t'aimerais réagir là-dessus ?
Alors déjà, je pense que l'entrée à l'université, enfin l'entrée dans les études supérieures, c'est une période de rupture, parce que à la fois sur nos relations amicales principalement, puisqu'en fait tout le monde a choisi un petit peu son chemin, et donc on va se créer un cercle d'amis nouveau avec des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, puisqu'ils ont le même cursus que nous, donc du coup ça crée forcément une distance, et comme tout le monde veut un petit peu s'intégrer dans son nouveau groupe d'amis, ben on va peut-être délaisser sans le vouloir, hein, les amis qu'on avait peut-être avant. Donc je pense que c'est vraiment une période comme ça, et puis ensuite tout le monde va un peu suivre son chemin, et ça va être un petit peu plus compliqué de maintenir les relations puisque tout le monde a sa vie, etc. Et donc c'est plus comme avant. Après, je pense que sur tout ce qui est rupture, en parlant par exemple de rupture amoureuse, je pense que le plus important, c'est la forme. Parce que finalement, ça peut arriver qu'on n'ait plus de sentiments pour la personne, ou qu'on ait envie de voir ailleurs, ou qu'on a d'autres intérêts, etc. Mais je pense que le plus important, c'est de respecter l'autre et de prendre soin de l'autre en exprimant sincèrement ses sentiments, et pas en partant, en mettant de la distance. Et parce que finalement, c'est le fait de s'éloigner et de pas vraiment donner d'explication, de fuir la situation, qui va faire que l'autre va se poser énormément de questions et se demander ce qui va pas chez lui, pourquoi tout de suite il n'y a plus d'intérêt, pourquoi cette personne disparaît de ma vie comme ça et ne veut plus me voir. Donc je pense que pour une personne qui veut mettre un terme à une relation, je pense que c'est important, et Marion, peut-être tu me donneras ton avis, mais je pense que c'est important d'être au clair avec soi-même sur la relation qu'on veut avoir avec la personne, et ensuite de lui expliquer simplement mais clairement ses sentiments. Et oui, ça fait de la peine que quelqu'un n'ait plus de sentiments pour nous, mais je pense que ce qui fait le plus mal, c'est d'être dans ce flou et d'être dans cette incertitude. Donc ne ghostez personne.
Oui, alors tu disais, est-ce qu'il y a des règles dans la durée de la souffrance autour d'une séparation ? Il n'y a pas de règles, mais la limite, ce sera peut-être quand ça prend trop de place, quand ça a des conséquences sur mon fonctionnement, que je suis trop triste, que je n'arrive plus à me lever, que je désinvestis mes études, que je perds du poids, que je me déprime en fait. La vraie question là, ce sera peut-être quand même de consulter, parce qu'il se passe peut-être quelque chose qui va nécessiter une certaine forme de soutien. Alors, consulter ou demander de l'aide en tout cas.
Est-ce que vous avez un exemple de relation sociale, que ce soit amoureuse ou amicale, qui vous a fait grandir ? En quoi il y a une relation pour vous, ou un exemple, quelque chose qui vous vient à l'esprit, qui a été une richesse dans la construction de votre identité ?
Alors, moi, personnellement, j'ai vécu une grande solitude à un moment donné dans mes études. Et c'était très compliqué pour moi parce que j'arrivais pas à me réintégrer. J'avais un peu loupé le coche, comme je le dis avant, parce que j'étais pas bien à cette période-là d'intégration. Et donc, je m'étais sentie très seule et je m'étais un peu perdue moi-même. Et en fait, après, je suis partie faire un stage à Londres pendant 2 mois. Donc, c'était une période quand même assez courte. Et en fait, pour moi, ça a été un peu un renouveau, parce que je pense qu'il y a aussi le côté avec la langue aussi qui fait qu'on se sent un peu une nouvelle personne. Et donc à Londres, j'ai rencontré une co-stagiaire qui était londonienne. Et en fait, cette relation a été tout de suite très, très fusionnelle, très, très proche, etc. Et en fait, ça a été un peu un renouveau pour moi, parce que je me suis vraiment révélée à moi-même dans cette relation. Je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est trop cool d'avoir quelqu'un comme ça avec qui on peut rigoler, avec qui on peut tout dire, tout confier, etc. Et ça a été vraiment hyper révélateur pour la suite, parce que ça m'a reboostée. Et après, quand je suis revenue en France et que j'ai repris mes études et tout, j'étais changée, j'avais repris confiance en moi. Et en fait, ça m'a redonné un peu le sens de ce que c'est vraiment l'amitié, d'avoir vraiment un lien avec quelqu'un et de se sentir soi-même, surtout dans la relation, parce que je pense que c'est le plus important de sentir que la personne t'accepte pour ce que tu es vraiment et pas pour le masque que tu essayes de mettre pour justement appartenir à un groupe, etc. Donc ouais, et c'est une relation qui dure toujours, et maintenant elle est en Australie et on s'appelle toutes les semaines, et voilà, donc je donnerai cet exemple-là.
Et c'est vrai, Yoline, ce que tu dis, ça me fait penser au fait que parfois c'est les relations les plus courtes ou les plus inattendues qui sont parfois les plus belles. Ça me fait penser aux relations qu'on a pendant l'été ou pendant les colonies de vacances. On sait que c'est des personnes qu'on rencontre sur le court terme, et parfois ça rend les relations encore plus intenses, encore plus belles, parce qu'on vit des moments forts de notre existence. Et justement, c'est parce qu'on sait que les personnes, on ne les reverra pas, que ça se passe très bien. Alors qu'à l'université, on peut justement se dire, ah bah, je vais être avec des personnes pendant toutes mes études, il faut que je crée une belle relation, il faut trouver les bonnes personnes tout de suite. Et c'est vrai que parfois, voilà, c'est en étant avec des personnes un peu inattendues que ça peut se passer encore mieux.
Je pense que c'est bien de se créer un groupe d'amis à la fac ou dans des études supérieures, mais je pense que c'est aussi intéressant d'explorer d'autres intérêts. Par exemple, si on a un intérêt pour un sport en particulier, un instrument de musique, une activité, quelque chose, et en fait d'avoir aussi un groupe de personnes ou des gens qu'on va connaître par le biais d'un autre centre d'intérêt. Par exemple, moi, j'avais un intérêt pour le théâtre, j'ai fait aussi du foot à l'université. Et en fait, c'est aussi intéressant de pouvoir un peu s'échapper et de pouvoir être avec des gens qui vont avoir le même intérêt que nous, de pouvoir explorer cet intérêt avec ces personnes-là. Et c'est une partie de nous-mêmes qu'on va consacrer un petit peu à ce groupe-là, qu'on pourra peut-être pas aborder avec ceux qu'on a à la fac, avec lesquels on va parler de cours ou de nos relations personnelles. Mais je pense que c'est aussi intéressant de se créer aussi d'autres groupes d'amis autre part, et de se dire, bon bah si je suis pas intéressée à aller à cet endroit avec ces personnes, bah, j'ai plus envie de faire ça, et de pas aussi tout mettre tous ses œufs dans le même panier. premier, et voilà. Donc je pense que ça, c'est intéressant. Et puis si on se sent seul aussi, et par exemple, on n'a pas forcément d'amis à la fac, ou on n'a pas réussi forcément à s'intégrer, bah, ne pas oublier qu'il y a voilà, cette possibilité-là, et de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Est-ce que je ne peux pas trouver quelque chose où je peux rencontrer des gens qui ont le même intérêt que moi?
C'est vrai que la fac nous offre une multitude de possibilités, avec toutes les associations, tout ce qui est mis en place au niveau de la culture, du sport, des événements. On a plein de possibilités de rencontrer plusieurs personnes ou même une ou deux personnes, ça peut être suffisant pour se sentir très bien, mais c'est l'occasion de creuser, comme tu dis, nos centres d'intérêt pour aller vers les personnes qui ont les mêmes et qui vont nous aider à nous construire.
Et puis peut-être quand pour nous c'est facile les relations, oser aussi aller à celle qui est un petit peu au fond de l'amphi là, et on voit bien que c'est plus difficile pour elle.
Et bien pour conclure, je pense qu'on peut dire que toutes les relations sont toujours un choix. Ne vous forcez pas à avoir des relations si vous n'en avez pas envie. Allez vers les gens qui vous aident à grandir. Mettez-vous aussi un peu en difficulté pour vous forger. Et que les relations sociales, bah, c'est beau. Et que les autres, c'est cool.
C'est la vie.
On arrive à la fin de ce podcast. Merci Marion de nous avoir rejoints et d'avoir répondu à nos questions. Et merci à toi Yoline. N'hésitez pas à la retrouver sur son compte Instagram @yoyobdt-du-bas. Si vous voulez nous rejoindre pour un prochain podcast, abonnez-vous sur notre Instagram, vous y trouverez toute l'information pour nous retrouver.
Merci Camille de m'avoir accompagnée pour cet épisode. Merci à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à Bien-être étudiant On Air sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts pour ne rater aucun épisode.
On vous rappelle aussi que les professionnels de santé de l'espace santé étudiant à PESAC sont toujours disponibles pour vous recevoir et vous éclairer sur n'importe quelle problématique. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.